La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cosona.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosonard. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un animal que beaucoup de gens aiment, que beaucoup de gens veulent protéger, mais finalement qu'on ne connaît pas forcément très très bien. C'est le hérisson d'Europe.
Alors effectivement, le hérisson d'Europe, comme son nom l'indique, il est présent dans pratiquement toute l'Europe de l'Ouest. Au nord, le climat qui est parfois un petit peu rude et puis les longs hivers limitent sa présence. Mais en Europe centrale, il y a aussi des terrains secs de basse altitude, donc il est moyennement présent. Par contre, dans les régions méditerranéennes, comme en France, les zones humides en particulier, disons les moyennes de la moyenne montagne, sont des milieux qui en fait sont très favorables pour lui. Donc dans toute la France, on peut dire qu'il est présent, ainsi que de la péninsule ibérique. À Midi-Pyrénées, on peut le trouver parfois à des altitudes assez importantes. Sur l'Aveyron, par exemple, dans le nord Aveyron, du côté de Entraigues, en remontant la Truyère, on peut le trouver jusqu'à 1100 mètres d'altitude, ce qui est pas mal. Il est moins fréquent dans les Hautes-Pyrénées, dans le nord du Lot, et puis finalement, on peut le trouver à peu près partout. Son statut réglementaire, il faut savoir que comme c'est une espèce qui est relativement courante et observée assez souvent d'ailleurs, c'est une espèce protégée, ça c'est évident. Et puis au niveau de la conservation de l'espèce, d'un point de vue de sa conservation, on peut dire qu'il est d'une préoccupation mineure, c'est-à-dire c'est une espèce qu'on surveille. C'est vrai qu'il y a des régions où il a disparu aussi, donc c'est important. Il est intimement lié aux pratiques agricoles aussi, donc il est surveillé.
Voilà, je rajouterai que d'ailleurs, espèce protégée, c'est un petit rappel qu'on n'a toujours pas le droit de les garder chez nous. On n'a pas non plus le droit de les consommer. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense à un exemple qu'on a eu l'année dernière du côté de Rodez, pour ceux qui connaissent un petit peu, des touristes qui ont commencé à chasser des hérissons pour s'en alimenter. Voilà, donc inutile de préciser qu'ils ont été quand même punis pour ce crime. Voilà. Au niveau de la biologie de cet animal, on va commencer par tout simplement son nom latin, Erinaceus europaeus, tout simplement, hérisson d'Europe. Dans la description physique, sa taille, il va aller jusqu'à à peu près 31 cm, on va rajouter jusqu'à 3 cm pour la petite queue qu'on ne voit pas beaucoup, qui est quand même très très bien cachée. Au niveau du poids, à l'âge adulte, il peut aller jusqu'à 1,2 kg, voire même plus. Moi, j'ai vu des hérissons beaucoup plus lourds. Plus il vieillit, plus il prend du poids, de toute façon. C'est un animal qui va être vraiment très petit à la naissance. Il va peser entre 22 et 25 grammes. Au niveau de son aspect physique, sa silhouette est plutôt ronde avec un museau pointu. Quand vous avez la chance de le voir dérouler, vous voyez que le museau est très très pointu. C'est un animal qui est particulier parce que c'est le seul mammifère, en tout cas de France, qui est recouvert de piquants. Donc ce sont des piquants en général bruns, avec des extrémités plutôt blanches, qui mesurent jusqu'à 3 cm de long, bien quand même. Et pour ceux qui se sont déjà fait piquer, ça fait mal. Le reste du corps est recouvert quand même de poils brun-gris, donc finalement la tête et le ventre et les pattes. Le mâle et la femelle ne sont pas très différenciables. Ça va être un petit peu comme tous les mammifères, il faut aller les sexer directement en regardant le sexe, ce qui est assez compliqué chez les adultes, mais pas tant que ça chez les jeunes. Parce que les jeunes ont moins une notion de danger. Donc par exemple, nous, quand on en accueille en centre de sauvegarde, on a plus de facilité à différencier les mâles des femelles chez les petits. Ils n'ont pas autant peur, donc ils ne se mettent pas forcément en boule. Voilà, tout simplement à rajouter que ces petits piquants, ils poussent et ils tombent en permanence. Oui, ce sont presque des poils un petit peu trop épais, donc et ça va être un petit peu comme tous les mammifères, ça va tomber et puis ça va repousser.
Pour ce qui est de son habitat, eh bien, en fait, on peut le trouver un petit peu dans tous les types de milieux, à condition qu'il y ait à la fois des secteurs où il puisse se cacher ou hiverner, c'est-à-dire des haies, par exemple, des tas de feuilles, des tas de branches, et à condition qu'il y ait aussi un territoire qui lui permette de se nourrir, c'est-à-dire une alternance de zones un petit peu boisées avec des haies et avec des prairies, des cultures où il peut éventuellement trouver des insectes pour se nourrir. Essentiellement d'ailleurs des escargots, des limaces et d'autres bestioles. Il est facilement perturbé par des températures trop fraîches ou parfois par un hiver trop long. Il est quand même très, très habitué aussi un petit peu au milieu urbain. Alors ça, c'est quelque chose qu'on constate depuis des années au niveau de notre centre de sauvegarde. Il n'est pas rare que des hérissons soient récupérés, pas vraiment au centre des villes, mais dans la périphérie, je pense en particulier à Millau, du côté du Parc de la Victoire, pour ceux qui connaissent, ou à Saint-Afrique, autour du Saint-Afrique les zones un petit peu où alternent à la fois les habitations, mais aussi les cultures et les vergers, mais on trouve du hérisson. On trouve du hérisson et ça, c'est vrai qu'a priori, on pourrait penser qu'il n'arrive pas à survivre. Eh bien non, il suffit qu'il ait un petit peu de place et puis ça marche très très bien. Par rapport à la façon dont il se déplace dans son habitat, je dirais que en fait, on s'imagine souvent qu'un hérisson, il ne va pas très très loin. Eh bien non, c'est faux, il peut parfois aller relativement loin. Et donc, cette recherche de nourriture, il la développe éventuellement sur un territoire qui peut parfois aller assez loin.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo. La tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí. La tengo, la llevo, soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace, la fiesta que tengo. No hay misión imposible. prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando.
Pour continuer dans notre présentation du hérisson, je vais vous parler un petit peu de son alimentation. Donc c'est souvent un critère qui surprend vraiment pas mal les gens, dans ce sens que le hérisson est omnivore, comme nous. C'est-à-dire qu'il mange tout autant de la viande que des fruits, des légumes, vraiment de tout. Alors son alimentation dominante d'ailleurs, est carnivore, donc il va plutôt se nourrir d'escargots, de limaces, d'insectes, voire même... quand il en a l'occasion, il ne va pas les chasser, parce qu'il ne peut tout simplement pas. Mais s'il voit un cadavre d'oiseau par terre, il ne va pas se gêner, il va le prendre. Donc vraiment, il mange de tout. Exceptionnellement, il peut aller chercher les œufs des oiseaux et s'en nourrir. Le hérisson tue quand même pas mal, une bonne centaine d'invertébrés. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui ont des jardins l'aiment bien. Enfin, c'est un bon compagnon. il va manger pas mal d'invertébrés qui seront considérés comme nuisibles, comme des coléoptères, des hannetons, des charançons, des bousiers, voire même des perce-oreilles ou des limaces. Et comme je disais, c'est une prédation qui est quand même pas mal limitée. Il va être plutôt opportuniste.
Pour ce qui est de son comportement, alors là, c'est difficile à observer. Mais on y arrive tout de même. Il est surtout actif, en fait, au crépuscule et la nuit. C'est avant tout un animal nocturne. Et d'une manière générale, souvent, malheureusement, on les observe pour la première fois sur les routes, lorsqu'ils ont des accidents avec des véhicules. Ceci dit, c'est en général au printemps ou à l'automne, lorsque les températures deviennent un petit peu clémentes, c'est-à-dire au-dessus de 10 degrés, qu'on a le plus de chances de les apercevoir. Et lorsqu'ils sont en hivernage, on peut dire, ben à ce moment-là, où ils peuvent éventuellement se réveiller s'il y a des périodes de douceur. Mais d'une manière générale, l'hibernation de ces animaux va durer de avril à septembre. Mais pourquoi ? C'est très simple. Comme la plupart des animaux qui hibernent, hein, ils accumulent de la nourriture et donc de la graisse et de l'énergie avant. Et cette période où leur métabolisme est très ralenti le permet tout doucement d'utiliser ces réserves pour arriver à passer l'hiver, sachant qu'en hiver, bien sûr pour eux, c'est beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture. Cette hibernation, ils la passent dans des gîtes. Ces gîtes, en fait, ce sont tout simplement des tas de feuilles, ça peut être dans une haie un gros tas de branches, et donc ils s'aménagent en quelque sorte un nid où il va être le plus possible isolé du climat extérieur, et à partir de là, il va rester. C'est avant tout un animal solitaire. Il n'a pas à proprement parler de territoire qu'il défend vraiment contre les autres. Lorsqu'il y a un danger, sa meilleure ressource, c'est effectivement de se rouler en boule, s'il y a un gros danger. Et du fait de ses piquants, à ce moment-là, bien sûr, il est à l'abri. Mais cette position, il ne l'adopte vraiment que dans des cas extrêmes, ou si on le ramasse, ou parfois lorsqu'il y a des chiens, par exemple, qui essayent de les saisir, ou des choses comme ça. Donc, à la mauvaise saison, il est clair que sa nourriture se raréfie. Et c'est à ce moment-là, donc, d'octobre à novembre, qu'il va hiberner. Ce qui est important pour nous, en tant que centre de sauvegarde, c'est qu'on sait très bien qu'un jeune hérisson qui arrive au mois de septembre, octobre, et qui ne pèse pas au minimum 400 à 500 grammes, ben il ne passera pas l'hiver. Donc c'est important parce que lorsque les gens nous appellent en disant « on a trouvé un petit hérisson, on ne sait pas quoi faire », ben on essaie de savoir avant tout combien il pèse. Et en fonction de la période, soit on va le récupérer pour lui permettre de passer l'hiver, soit on va le laisser dans la nature et il va falloir qu'il s'assume tout seul. Mais il ne pourra le faire que s'il a un poids suffisant pour passer l'hiver.
Alors, on parlait des jeunes, donc au niveau de l'accouplement, ça se fait entre avril et septembre, donc c'est une assez longue période. On arrive à lire pas mal que le hérisson se reproduit quand même vraiment énormément, il fait pas mal de portées. Nous, c'est vrai que, en tout cas dans notre centre de sauvegarde à nous, on accueille surtout les hérissons vers la fin de l'année, septembre-octobre, voire même un tout petit peu plus tard. Donc la période de gestation pour un hérisson, c'est 6 à 7 semaines. Et au niveau de la mise bas, il y aura de 2 à 7 jeunes. Donc c'est vrai que, comme beaucoup de mammifères, comme tous les mammifères, ces jeunes vont être aveugles et auront besoin de beaucoup, beaucoup de soins, de beaucoup de protection, parce qu'ils n'ont pas de piquant dès qu'ils sont nés. Ils sont recouverts d'une peau rose pâle. Et ils se nourrissent que du lait de leur mère. Ce sont des mammifères. Donc c'est vrai qu'ils auront besoin de beaucoup de soins que seule la mère pourra leur fournir. Elle devra déjà nourrir peut-être jusqu'à 7 jeunes. Donc ça fait quand même nourrir presque 1 kilo de hérisson. Donc c'est déjà plus que son poids à elle. Et il va falloir qu'elle se nourrisse elle-même déjà. Au départ. Donc c'est vrai que au niveau des portées, il y a souvent 20% des jeunes qui ne survivent pas. Voire plus, ça dépend de ce qui se passe. À 3 ou 4 semaines, les hérissons sont capables de quitter le nid, donc ils suivent pas mal leur mère en promenade. C'est ce que souvent des gens arrivent à constater. Et c'est aussi comme ça que les gens arrivent à trouver les jeunes pour nous les amener nous. C'est souvent que la mère a été écrasée et les jeunes se retrouvent à côté, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont plus la mère à suivre. Donc les gens les entendent hurler souvent et puis ils nous disent « Bon, ben tiens, j'ai trouvé une portée de hérisson, la mère est écrasée à côté, je vous la mets. » Voilà. 3 à 4 semaines, ils suivent leur mère. Donc 10 jours plus tard encore, ils sont capables de sortir seuls, donc ils commencent à se balader un petit peu. Et finalement, ils commencent à faire leur vie, ils commencent à essayer de trouver la nourriture tout seuls. Ils font un petit peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'au bout d'un an, il ne reste que 30% de la portée, ce qui est plutôt normal. Si vous vous rappelez, dans plusieurs émissions où on parle des jeunes, n'importe quel animal, c'est maximum, enfin maximum, ça dépend comment ça se passe, mais maximum 50% de la portée ne survit pas de la première année. Donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui meurent. S'ils ont passé ce cap, les hérissons arrivent à vivre à peu près jusqu'à 5 ans. C'est déjà arrivé qu'il y en ait qui vivent 10 ans. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et très très rarement, ils vivent pas plus longtemps que ces 10 ans-là, quoi. Voilà.
Parmi les principales causes de mortalité, il y a deux actions différentes. Ce sont les causes directes. Je pense que la première, et de loin, c'est tout ce qui est dû au trafic routier. Alors c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler ici que si on voit un hérisson sur la route, eh bien il faut lever le pied. Il faut lever le pied, c'est une évidence. Lorsqu'on peut le faire, bien sûr, hein, on ne va pas non plus mettre sa vie en danger. Mais bon, en général, on arrive quand même à les apercevoir et il y a effectivement beaucoup de gens qui lèvent le pied. La deuxième cause, je dirais qui est beaucoup plus insidieuse et importante, parce que là, elle nous concerne tous, et pas seulement le milieu agricole, c'est l'utilisation des pesticides et des herbicides. On parle beaucoup de glyphosate, ben les hérissons, ils l'aiment pas, ça c'est évident. Donc, lorsqu'on a un jardin, et puis ne serait-ce qu'un petit jardin ou un petit champ, si on a l'occasion de... ou si on sait qu'il y a des hérissons dans le secteur, il est évident qu'on doit utiliser les pesticides et les insecticides avec parcimonie. Et si on peut faire autrement, c'est encore mieux. Parce qu'il est évident que chaque fois qu'on tuera des limaces ou des escargots, on a des grandes chances d'arriver à tuer aussi des animaux qui, comme le hérisson, qui éventuellement vont les manger une fois qu'ils seront morts. Et c'est pareil aussi pour les souris et les rats. La troisième cause directe de disparition, ça peut être la prédation. Alors on pourrait penser que le hérisson, effectivement, du fait de ses piquants, n'a pas beaucoup de prédateurs. Mais il faut se détromper, vous, dans la nature, il est couramment la victime des blaireaux. Vous avez des grands rapaces qui sont aussi des prédateurs, ou des super prédateurs. Nous, on surveille depuis maintenant plusieurs dizaines d'années les couples de hiboux grand-duc, soit dans la région de Millau, ou dans le sud d'Aveyron, ou même de Sainte-Afrique. Et lorsqu'on fait des relevés de proies dans les airs, il n'est pas rare de trouver des pelotes de ces animaux qui ont été donc dévorés par les grands-ducs. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, il y avait même un couple de grands-ducs qui était vraiment spécialisé hérisson, et on trouvait régulièrement au-dessus de la falaise où ils se trouvaient des peaux de hérisson, on va dire, sur le dos et complètement dépouillées. Donc il y a effectivement quand même des prédateurs, on va dire, d'autres animaux. Autre facteur qui peut être un facteur de mortalité, c'est tout ce qui touche au parasitisme. Alors, c'est vrai que les hérissons sont très sensibles à un certain nombre de virus ou de maladies. Et en particulier, ils peuvent très bien aussi, ils sont très souvent victimes de tiques qui, à ce moment-là, leur injectent aussi quelques maladies. Des maladies infectieuses le plus souvent. Les morts par épuisement, bon, c'est assez rarissime, sauf à l'entrée de l'hiver, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour les hérissons les plus jeunes qui n'ont pas encore fabriqué leur réserve pour passer l'hiver. Ou alors des jeunes dont la mère a disparu, soit victime d'un prédateur, soit écrasé sur la route, ou soit pour d'autres causes. La consommation illégale. Alors, il faut savoir que c'était probablement au début des années 1900 une pratique assez courante. Moi, je me rappelle avoir entendu dire, et même ça a été prouvé, qu'en particulier, certains gens du voyage consommaient régulièrement des hérissons. Moi, je pense que maintenant, c'est une pratique qui, finalement, a à peu près disparu. Des accidents d'hiver, ben oui, ça peut arriver, hein, des hérissons qui tombent dans des piscines, surtout autour des villes ou des villages, ou qui chutent dans des trous. Voilà pour les causes directes. Parmi les causes indirectes, je crois qu'on peut signaler effectivement la disparition de l'habitat, avant tout de ces animaux. Disparition de l'habitat qui entraîne effectivement la disparition des espèces proies. Et à partir de là, le hérisson n'a plus sa place. Donc, disparition des bocages, la disparition des petits bois, ça c'est surtout valable pour les remembrements intensifs où on fait disparaître toutes les et tous les endroits où il y a des petits chemins ou des choses comme ça. Bon, j'avoue qu'on n'est pas sur le département de l'Aveyron dans ce cas de figure vraiment. Les gros remembrements et c'est une bonne chose, complètement cessé. Et on essaye quand même, je pense, sur le département de l'Aveyron, de préserver une agriculture qui laisse un petit peu de place à la faune sauvage. La séparation des jeunes et des adultes, donc ça c'est pour... s'il y a effectivement des adultes qui disparaissent en période de reproduction. Et puis donc, comme je l'ai dit, cause indirecte, c'est l'injection d'insectes contaminés par des pesticides ou d'animaux. Donc, en fait, le maintien des hérissons, eh bien, il est effectivement surtout fonction du maintien à la fois des prairies et des champêtres, et en résumé, de l'habitat et des proies du hérisson. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. Wheel. We'll be right back.
icebox looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump jiving, then you will, 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 you gotta jump jiving, then you will. But a male. A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. Get a pail. Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jill stayed up, she wanted to learn how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will.
Alors maintenant, nous allons vous parler un petit peu de ce qui concerne le centre de sauvegarde directement. Donc au niveau des accueils de hérissons, on va vous parler des chiffres sur les 10 dernières années. On ne va pas remonter plus loin parce que c'est vraiment de 2008 à 2018 qu'on a constaté une différence dans le nombre d'accueils. C'est une évolution, on ne sait pas si c'est sympa ou pas sympa. Dans le sens où quand un animal se retrouve au centre de sauvegarde, c'est que déjà ça ne va pas bien. Donc... voilà. On va constater très rapidement qu'en 2008, entre 2008 et 2018, le nombre d'accueils a augmenté considérablement. C'est-à-dire qu'en 2008, zéro accueil de hérissons sur toute l'année. Alors qu'en 2018, l'année dernière, on était à 23. En passant par 37 en 2016, 22 en 2015. On a quand même fait un gros saut entre 2014 et 2015, parce qu'en 2014, il y a eu 6 accueils, et en 2015, 22. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution pas mal. On reçoit beaucoup plus de jeunes que d'adultes, ce qui me semble quand même assez normal. Au niveau des adultes, c'est très régulier, un ou deux adultes par an. Ça dépend de chaque année. Et les juvéniles, par contre, sur 10 ans, on en a reçu 114. Donc pareil, en 2014, 4 jeunes sur les 6 accueils. Et en 2018, 22 jeunes sur les 23 accueils. Donc ces causes d'accueil sont quand même plutôt les mêmes chaque année, à savoir que c'est surtout le ramassage des jeunes, comme je viens de vous l'expliquer avec les chiffres, à 74% à peu près. Tout simplement, comme on le disait, les gens les trouvent peut-être sous les tas de feuilles en faisant du rangement dans le jardin et puis se disent bon ben ils sont pas bien, je vais les prendre, ou la mère s'est fait écraser, ou alors on les a vus deux jours, ce genre de choses. Après, la plus grosse cause d'accueil va être un petit peu les accidents agricoles, on va dire. C'est pas rare qu'on ait quand même un hérisson qui soit passé sous une tondeuse à gazon, par exemple. Ensuite la prédation, mon chien a attrapé, a en tout cas blessé cet animal, et puis ensuite les accidents, comme ils sont tombés dans les piscines par exemple. Donc c'est vrai que les hérissons, on est plutôt habitués.
Pour ce qui est du relâcher de ces animaux, lorsqu'on va les remettre dans la nature, au niveau du sang sauvage, on ne se contente pas, surtout s'il s'agit de jeunes qui finalement ne se sont jamais débrouillés seuls dans la nature, on ne se contente pas de les relâcher en leur disant « ça y est, tu es libre, dépêche-toi, fais ta vie ».
Vol.
Parce qu'un animal dans ces conditions-là, il n'a aucune chance ou très peu de chance de survivre. Donc on prépare un petit peu d'une part le terrain et d'autre part on leur construit un abri. Cet abri, il va être installé dans un milieu favorable. Milieu favorable qui est établi d'après des critères que nous possédons, à savoir sur des possibilités en termes de ressources alimentaires. Donc ça, je ne vais pas y revenir, on en a parlé tout à l'heure, hein, des prairies, si possible, beaucoup d'insectes et des escargots, des choses comme ça. Donc à partir de là, on va installer cet abri et trois de ces animaux, on les met par trois en général, hein, à l'intérieur. Dans un premier temps, il y aura aussi autour de cet abri une espèce de petite cour, on va dire, qu'on aménage. Et les animaux, ils vont être prisonniers pendant une semaine et s'imprégner un petit peu de l'espace qu'il y a autour. On va bien sûr les nourrir. Et au bout d'une semaine, les gens à qui nous les avons confiés vont enlever la partie qui sert de prison un petit peu à ces hérissons, tout en continuant à mettre de la nourriture. Donc ces hérissons, ils vont s'éloigner un petit peu de ce point de départ, sachant qu'il y a de la nourriture, ils reviennent toujours, et ils peuvent parfois même demeurer et dormir dans l'abri qui a été aménagé pour eux. Et cela permet en fait de les intégrer dans la nature progressivement, ce qui leur donne bien sûr beaucoup plus de chances de survie. Puisque là, on les assiste au départ, mais petit à petit, ils deviennent autonomes, s'émancipent, et le plus souvent, ils arrivent à s'en sortir et puis à s'installer dans le secteur. Alors, il faut savoir que ce genre de choses-là, on ne peut le faire que dans un cadre réglementaire très strict, parce qu'encore une fois, il s'agit là d'animaux d'espèces protégées. Donc le centre de sauvegarde est responsable à la fois de ces animaux jusqu'au moment où ils vont être libérés définitivement, mais aussi de la structure qui a été construite pour pouvoir les libérer. Donc ils sont confiés à des gens par délégation, parce qu'ils ont beaucoup plus de chance, ils sont dans un milieu favorable, et qu'on ne peut évidemment pas lâcher 20 ou 25 hérissons à partir de centre de sauvegarde du même endroit. Mais il faut savoir que si cela est fait, c'est dans un cadre donc réglementaire très strict et l'opération peut être contrôlée à tout moment par les responsables de la politique de l'environnement. Donc nous devons nous fournir à la fois les adresses et les identités des personnes qui acceptent de participer à cette opération, qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, a un très grand succès, puisque... pour ce qui concerne, par exemple, les animaux dont nous disposons actuellement et qui vont être relâchés vraisemblablement à la fin du mois de mars, nous avons d'ores et déjà placé tous les animaux qui sont en notre possession.
Voilà, donc du coup, quand on essaye, quelqu'un dit qu'il veut relâcher un animal chez lui, on va d'abord aller constater le milieu. Donc effectivement, dès le départ, on va prendre quelques caractéristiques. Donc premièrement, loin de la route, c'est ce qu'on cherche à savoir en priorité. Ensuite, on va voir s'il n'y a pas des champs à proximité. Donc comme on l'avait dit, voir s'il n'y a pas plus de chances d'avoir des proies, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir des haies et des murets en pierre. Et ensuite, c'est pas mal s'il y a des bocages, puisqu'on avait dit qu'il y avait quand même pas mal de disparitions de bocages tout à l'heure.
Pour ce qui concerne ces relâchés, il faut savoir que donc, nous avons une liste d'attente avec des gens qui effectivement... acceptent de relâcher ces hérissons chez eux. Il faut savoir aussi que parfois, lorsqu'ils nous les amènent à l'automne et qu'ils sont tout petits, certains manifestent le désir de les relâcher chez eux. Donc, bien sûr, ils ont la priorité puisque les animaux proviennent de chez eux. Pour ce qui concerne les gens qui sont éventuellement intéressés et qui estiment dans un premier temps qu'ils ont un habitat qui peut être favorable, ben nous vous invitons à nous contacter par mail au crsfsc@orange.fr ou par téléphone au 05 65 59 09 87. Vous pouvez aussi nous contacter, puisque nous construisons régulièrement des abris pour hérissons. Et ça, c'est le genre de choses où on peut fournir effectivement les plans de ces abris à des gens qui, chez eux, ont des hérissons. Et donc, parfois, ils sont obligés de détruire l'abri naturel. Ça peut arriver, hein, des gens qui veulent changer de place un gros tas de bois, des gens qui veulent enlever souvent, ce sont des gros tas de feuilles ou parfois même des déchets verts qu'ils recyclent, ben en fait, il y a souvent des hérissons qui s'installent dessous et donc ils se retrouvent complètement à la rue lorsque leur abri est détruit.
Voilà, donc je pense que pour finir, c'est quand même important d'indiquer à tous quelques, c'est pas des règles à suivre, mais quelques petites idées pour les aider. En premier, toujours, quand vous faites votre jardin, par exemple, peut-être penser, si vous avez la possibilité, à laisser un tas de feuilles mortes, de bois ou de compost au fond du jardin. C'est vrai que c'est des endroits qu'ils adorent. Comme on disait tout à l'heure, éviter au maximum d'utiliser les insecticides, les pesticides, pour éviter de contaminer leur nourriture. Et en dernier, ne pas forcément clôturer hermétiquement le jardin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des grillages jusqu'à 1 mètre de profondeur, ce genre de choses, pour qu'ils puissent avoir la possibilité de se balader. Et aussi, à rajouter que si vous croisez un hérisson dans la journée, et qu'il n'a pas l'air forcément mal en point, s'il n'est pas blessé, s'il fait sa vie, ça peut être normal. De temps en temps, ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver qu'un hérisson se balade quand même en journée, parce qu'il a envie de trouver de la nourriture en plus, ce genre de choses. Après, c'est souvent que au moment du crépuscule, donc vers la fin de la journée, donc principalement en été, la nuit n'est pas encore tombée. Et le hérisson se balade quand même, donc il fait jour, donc c'est normal. C'est un petit peu avant la nuit, c'est normal aussi. Mais si jamais vous trouvez un hérisson qui vous semble abandonné, blessé, ou que même vous avez un petit doute, n'hésitez pas à appeler le centre de sauvegarde le plus proche de chez vous. Ça peut être nous, ça peut être n'importe quel centre de sauvegarde. Et dans tous les cas, ça s'applique quand même à tous les mammifères. Je pense, moi, principalement à tout ce qui est chevreuil, qu'on trouve tout seul et qu'on se dit « Ah mince, il est abandonné », ça n'est pas forcément le cas. Donc, avant de toucher l'animal, avant de faire quelque chose ou peut-être de mettre à mal sa biologie, de tout ruiner, je me dirais entre guillemets, contactez quand même le centre de sauvegarde le plus proche de chez vous pour avoir les conseils nécessaires. Savoir s'il faut le toucher, s'il ne faut pas le toucher, s'il faut le laisser en place, s'il faut le replacer. Il est important quand même de nous appeler. Merci.
La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cossonay.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cossonay.